way above the rim, demonstrating some serious hang time.
Hi, this is Alex Russell.
This is Natural Self.
Yo, what's up? My name's Aaron Jerome.
Hi, this is Omar.
This is Alex Cowan, aka TM Duke.
Yo, this is Camp Diddle.
Hey everybody, this is Stephanie McKay.
This is Ho Bibber from Fat Freddy's Drop.
With DJ Mars.
Mars.
With Mars.
Mars B.
With Mars Blackman.
Goodbye, Mars.
Hang Time saison 1 épisode 3, bienvenue à tous, branchez vos magnétoscopes là.
Lâchez la pause.
Bon, salut à tous, Seth Swift est avec moi, on ne pouvait pas faire
j'ai
ça.
J'ai fait une infidélité à mes partenaires de la 5ème colonne, mais je ne pouvais pas ne pas venir. En tout cas, merci pour ton invitation.
Merci d'être venu.
Voilà.
C'est plutôt cool, on vous le dit, on vous le répète, on l'a annoncé un petit peu partout.
C'est pas une rumeur, hein, comme disait Johanna, non, c'est sûr, c'est sûr.
C'est pas une rumeur, je l'ai pas encore en ligne, mais,
non, mais
normalement
attends,
c'est bon.
Il y a un imitateur qui a fait un jingle avant et tout, on sait.
Voilà, le Jordan X, George Eddy, est en direct ce soir dans Hang Time pour nous parler de tout ce qui lui passera par la tête. On va pas parler, en tout cas, de ce dont il a l'habitude de parler, c'est-à-dire des terrains et de la grosse balle orange. On va essayer de découvrir une autre facette du monsieur d'ici moins de 5 minutes en tout cas. On aura le privilège d'avoir, alors là c'est vraiment monsieur avec un grand M, George Eddy. C'est, on est quand même, on a le cœur qui s'accélère.
C'est des souvenirs et puis voilà, c'est quelqu'un qui représente dans notre culture, au moins par rapport au sport et la culture urbaine et tout ce qui s'est développé autour. Le kiff que moi j'ai pu depuis les années 90 avoir autour de la street culture, du basket de rue, du basket en club, de la sneaker culture, la musique, tout ça est associé quand même et il fait partie des gens qui ont permis de faire monter la sauce quoi dans ces années 90, de mon point de vue c'est ça quoi.
23 ans qui commente sur Canal Plus et qui nous fait rêver, qui nous a filé pas mal de nuits blanches quand même.
Ouais, il y a des matchs.
On l'a mérité, genre j'ai dit, parce qu'on en a fait, on en a mis des réveils à 3h du matin pour voir des directs peu probables en direct de Phoenix, de Seattle et tout, sur des horaires décalés. Mais en tout cas, on est bien content et puis il y a une excitation, en tout cas dans les studios de la grenouille.
On voit Seb à la technique
en face de nous,
qui
a la banane.
Surtout
que Seb, en tout cas, la technique, je tiens à lui faire un grand merci parce que c'est lui qui nous a filé l'idée en nous disant si on faisait venir George Eddy un soir, et ben le raid est devenu réalité en tout cas dans moins de 5 minutes. En attendant, on s'écoute Life is Just a Moment. Roy Ayers, tu restes avec moi, Seb.
Digging workshop, check it. 4 to 5 fury when the funk hits the fan, like 4 to 5 drummers when Othello's on the stand. Something like you're learning to the verdict with a plan, and let a brother go burning like a furnace through the land. Fire in the hand, scorch you when I reach out to bleep out your freestyles and read down the jam like a beast out the slam on the dance floor. Murder in the circle, hating beats like a grand slam serving them.
Doing it well, if you gotta move, better do it yourself. 'Cause ain't nobody gonna make somebody get loose. The point I gotta lose a shell. Hey, hey.
some of that pure energy emptying out the sun till the nightfall come. Where the quarter crest and half a full, the light's still on. Everybody's moving beneath the stars, shuffling their feet through the streets, peace to each and all of y'all. Yeah. Finally, some energy. That's what I'm saying. It's about time. Most of these cats, man, just want to play the role, play the background, play the role, man. Step out, man. Have a good time. That's what this is about. That's what I'm saying. I see you over there. Yeah, do your thing, man.
Doing the well. If you gotta move, gotta do it yourself. Cause ain't nobody gonna make somebody get loose.
Electric slide, sit the left to right, front to back, shotgun jiving. Doing the wildcats, pop locking and gliding. B-boys on the corner, killing it up rock. But nobody's spectating, just feeling the vibe. It's surprising enough. Nobody's fronting or acting tough. Sizing up another brother, nobody's fighting. It's all love. Dancing to the DJs, all done. Somebody started battling, the battle was all fun. Calling on crews, cause the groove's evolving. Break beat, take six time to watch them freeze and stop. Coming out again in momentum out of multiple combinations of moves. And with the beat is caught, flavors executed, cause the root of having juices getting loose in the rhythm. And when they reach the top, somehow defying gravity and busting patterns accurately, capturing the breath in the crowd. They erupt and they're jumping, cause something is happening. They're laughing and dancing and backing up. Everybody's
doing it well. If you gotta move, gotta do it yourself. Cause ain't nobody gonna make somebody get loose.
Hey.
Voilà, cette ça n'était donc apparemment pas une rumeur.
C'est vrai, il est là.
Il est là avec nous d'ici 15 secondes. Et j'avais envie de me faire un petit plaisir, parce que là, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on est comme des petits-enfants. Le plaisir de recevoir Georges Eddy, juste, on se la fait vraiment comme il faut, Ced, ou pas?
Allez, on y va.
Allez, on y va. On a dit qu'on se la faisait comme il faut.
On est à Chicago.
On n'est pas loin, on est sur Marseille. On a le plaisir de recevoir Monsieur George Eddy. Salut George.
Salut.
Comment ça va?
Bonsoir.
Impeccable.
C'est peu de dire que c'est plus qu'un plaisir et un honneur de vous recevoir ce soir dans Hangtime, en tout cas.
Ok, bon, en plus c'est une région que je connais bien parce que j'ai une maison de vacances à Manosque.
Ah bah ouais. Alors, et bah du coup ce sera l'occasion de venir une fois en direct à la radio avec nous, en tout cas pour être là. Et en plus on vous l'a fait comme il faut, hein. On vous a mis l'intro des Bulls et tout, hein.
Ouais, j'ai bien entendu. Ça rappelle la belle époque de Michael Air Jordan
du United Center.
Et le vrai Marv Blackman.
Voilà, exactement. Et puis ça nous rappelle en tout cas des bonnes nuits blanches à vous écouter, à passer.
Non, mais c'est vraiment Spike Lee qui est dans le studio, hein. Il parle français maintenant.
En tout cas, je peux vous confirmer, je suis pas le vrai Marv Blackman, mais je suis pas bien plus grand que Spike Lee en tout cas. Mais j'ai pas.
Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois. Mais je l'ai vu à la dernière finale et il m'a un peu rabroué, donc. Je suis un peu moins fan de Spike Lee en ce moment.
Bah, on espère que vous serez plus fan de nous, en tout cas. Je suis avec mon compère Ced Swift qui est avec moi, qui voulait pas rater évidemment ce moment qu'on va passer ensemble. Et donc nous on va parler de plein de choses, mais pas forcément de la balle orange, voire même pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on avait un peu envie de vous avoir. Donc forcément, nous, on est une émission dédiée à la black culture, à la musique black dans son ensemble. Et quand on s'intéresse à la black culture, on s'intéresse à l'évolution des mentalités. Et forcément, bah, certaines figures emblématiques comme Martin Luther King, Malcolm X, et puis on va en parler tout à l'heure, même aujourd'hui, Monsieur Obama, en tout cas. Donc Martin Luther King, il me semble que pour vous, c'était un personnage important et à plus d'un titre.
Oui, parce que mon père luttait avec l'association de Martin Luther King dans les années 60 en Floride, chose courageuse pour un homme blanc à l'époque. Et donc, on était baignés dedans. J'écoutais les discours sur les vieux 33 tours de Martin Luther King avec mon père. Et on avait les larmes aux yeux parce que ça nous touchait terriblement. Et puis, bon, évidemment, on était meurtris quand il a été assassiné. C'était une journée très triste pour tous ceux qui voulaient voir avancer la cause des droits civiques pour tous les citoyens américains.
Et oui, et vous avez grandi en Floride, hein, il me semble.
Oui, c'est ça. Et de mon côté, bon, j'adorais le basket depuis l'âge de 7-8 ans. Et je jouais très souvent sur les petits playgrounds dans le quartier noir, où avec un autre copain, on était des sourds blancs à s'y aventurer. Et on a toujours été très bien respectés et traités d'ailleurs. Et ça nous a permis de progresser encore plus vite au basket.
Ah, j'imagine. Et cette ségrégation, vous l'avez vécue en direct alors dans les années 60? C'était quelque chose que vous ressentiez vraiment?
Oui, parce que j'avais des petits copains blancs qui me reprochaient mes contacts avec les enfants noirs. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal, on va dire, de blaireaux américains, de rednecks. On disait à l'époque les coups rouges qui étaient assez racistes et assez bornés. Bon, on retrouve un peu la même mentalité chez les néoconservateurs anti-avortement et tous les copains de Bush et de McCain actuellement. Ce n'est pas la même époque.
Mais les mentalités sont les mêmes.
Le même problème politique, mais on reste avec une sorte de mentalité renfermée vis-à-vis de l'extérieur.
Parce que Madame Palin, elle fout les jetons, hein. Enfin, en tout cas, ce qu'on en voit,
oui,
elle fout les jetons, hein.
Bon, elle représente ce que je viens d'expliquer.
Exactement.
Avec McCain, bon, les 8 ans de Bush, pour moi, c'était un grand trou noir après les années Clinton, qui étaient plutôt des années lumière.
Bien sûr.
Malgré ses défauts. Et donc, je ne suis pas très religieux, mais je prie pour l'élection d'Obama maintenant.
Alors malgré tout, c'est l'Amérique du sport, en tout cas, elle a véhiculé mais longtemps tous ces clivages noir et blanc, comme les finales entre l'Amérique bien blanche et puritaine de Boston avec les Celtics et le Los Angeles des ghettos avec Magic, James Worthy et Kareem Abdul-Jabbar. C'est encore véhiculé quand même cette image de clivage.
Oui, bon, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, grosso modo, les Noirs ont bien plus d'opportunités de s'en sortir dans la société américaine que dans les années 60.
Mm-hmm.
Donc, je pense que l'œuvre de Martin Luther King, de Malcolm X et tous les grands leaders comme les Kennedy, parmi d'autres, ont bien fait avancer les choses. Et que, bon, maintenant, quand on voit tous ces basketteurs noirs, bon, ça c'est juste une petite élite sportive. Mais même chez les avocats, les médecins, les hommes politiques, bon, il y a des ouvertures partout dans la société américaine pour la race noire. Et je m'en réjouis, même s'il reste quelques relents de racisme d'ici et là. Mais bon, c'est tout à fait similaire à la situation en France vis-à-vis de la population algérienne.
Bien sûr.
Ou maghrébine, si vous voulez.
Et par rapport, parce que nous, évidemment, quand on regarde l'histoire, en tout cas, de l'Amérique, telle qu'on peut la découvrir dans le sport, et je crois que la NBA, pour ça, est un bon miroir de la société américaine, en tout cas dans ces années 60. Vous qui avez connu cette époque, pour nous, quand on entend parler de Bill Russell, par exemple, c'est une légende du basket avec ses 11 titres et Boston, etc. Mais à l'époque, il était vu comment ? Comme un simple grand joueur ou comme une curiosité à aller voir, comme une bête de foire ?
Parce que ça a été le premier coach noir d'une équipe NBA également.
Oui, oui, bon, quelque part, les basketteurs qui font 2m15, sont toujours regardés un peu comme des bêtes de foire encore aujourd'hui. Mais ça fait une partie de l'attrait de ce sport, de voir ces géants qui arrivent à courir, à bien jouer au basket. Ça fait partie du jeu. Mais ce qui était important dans les années 60, c'était que les grandes stars, pas toutes les grandes stars, mais beaucoup, étaient très engagées politiquement.
C'est ça.
Ça semble être un peu moins le cas aujourd'hui, même si j'ai vu que beaucoup de joueurs NBA soutient ouvertement Obama, et c'est une bonne chose. Michael Jordan, malheureusement, ne s'engageait pas tellement politiquement, même s'il avait des idées très précises, mais il disait que moi je vends mes chaussures à des républicains comme aux démocrates et je ne veux pas vexer une partie de mon marché, si vous voulez. Tandis que dans les années 60, ce qui était formidable, c'est que Bill Russell était à côté de Martin Luther King sur le podium devant entre 500 000 et 1 million de personnes qui marchaient sur le Capitol à Washington lors de ce fameux grand discours « I have a dream, j'ai un rêve ».
Bien sûr. Ouais.
Et donc Bill Russell a toujours été très impliqué. Après, Kareem Abdul-Jabbar en 68 a pris des positions très fortes au même moment que les Jeux Olympiques à Mexico City. À cette époque-là, les points rasés
avec Tommy Smith, ouais, ouais.
Avec les gants noirs, mm-hmm. On se souvient très bien. Kareem Abdul-Jabbar était très impliqué avec ce groupe d'athlètes qui voulaient également utiliser leur talent pour faire avancer certaines idées politiques.
Le dernier qui a eu un peu une image politisée, c'est Charles Barkley en fait, mais qui était un peu plus, comment dire, il est plus rigolo qu'autre chose, Barkley.
Oui, c'est un personnage intéressant parce que il dit qu'il a très envie de se présenter comme gouverneur de l'État d'Alabama, ce qui serait extraordinaire parce que c'est un des États traditionnellement le plus
ségrégationniste
du pays. Donc si déjà Charles Barkley est élu gouverneur de cet état, ça serait quand même quelque chose d'incroyable. Mais bon, Barkley, c'est un mélange de sens de l'humour, on va dire, d'outrage,
mais bon, y a bien
de langage. Mais il a des idées, il a même été républicain à une époque.
Oui, donc, oui, je me rappelle de ça. Il y a même un catcheur qui a été élu de gouverneur du Minnesota, il me semble.
Oui, exactement.
Donc,
bon, lui,
c'est possible pour Barkley.
Mais disons que on voit Schwarzenegger qui est le gouverneur de Californie, donc aux États-Unis, tout peut arriver.
Ouais, ça c'est sûr. Mais alors, vous qui avez couvert les événements sportifs aux USA depuis plus de 20 ans, pays où tout le monde sait plus que n'importe quel autre que le sport est roi, comment vous avez vécu l'évolution de ces mentalités entre les années 80 et 90 où on avait l'impression que les joueurs, justement, avaient pleinement conscience de leur rôle social, ce rôle de role-player, comme on les appelait, et même politique. On vient de parler de Charles Barkley, mais il y avait aussi Magic Johnson, etc. Et les années 2000 actuelles, où le sport a semblé suivre le mouvement gangster rap avec ce bling bling, etc., où on a l'impression que les joueurs, maintenant, ils se mesurent pas à leur cerveau, mais à la taille de leur humeur. Comment vous avez vécu cette évolution? Parce que vous y êtes tout le temps, chaque année, au All-Star Game, etc., vous les voyez, les joueurs.
Oui, ce qui est drôle, c'est que cette période récente bling bling ressemble quand même à ce qui est arrivé dans les années 80, ou même dans les années 70, avant l'arrivée du duel Magic-Larry Bird et de David Stern à la tête de la NBA. Donc l'image de la NBA était très négative.
Oui, avec Dr. J, ouais, etc.
90% de joueurs noirs qui s'en foutaient un peu de faire gagner leur équipe. L'individualisme primé, surtout, c'était le fric... et la drogue un peu partout. Mais bon, est-ce que ça ne représentait pas la société américaine à l'époque?
Bien sûr.
Et par la suite, heureusement, avec l'arrivée de Magic, Bird, des joueurs collectifs très sérieux qui gagnaient des titres, puis Jordan par la suite, et puis ce génie de marketing qui était David Stern, qui a su gérer tout ce gros business tout en restant très charitable vis-à-vis des communautés. Donc tout ça a pu maintenant engendrer une ligue très forte. Bon, après il y a ce côté gangster, rap et tout. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que ça... c'est une petite partie de l'image de la NBA. Mm-hmm. Mais bon, dans les salles, il y a beaucoup de familles, beaucoup de businessmen. On y va en toute sécurité. Donc est-ce que ce n'est pas encore un petit outil marketing pour attirer les jeunes ados pour acheter des produits comme les pompes et les fringues, quoi? Donc je ne sais pas si c'est politique, si c'est du marketing, mais bon, c'est clair que la NBA doit jongler pour se protéger, pour ne pas trop dériver, comme ça a été le cas dans la fameuse bagarre à Détroit, qui était, on va dire, un peu le point bas de ces dernières années pour la Ligue.
D'accord. Et... par rapport à toute cette évolution des mentalités, vous pensez que si l'annonce de la séropositivité de Magic avait lieu aujourd'hui, elle aurait eu le même impact?
Non, parce que on connaissait beaucoup moins bien le sida et la séropositivité en 91.
Non, mais c'était des porte-paroles quand même. C'était des gens qui arrivaient à sensibiliser en tout cas la jeunesse de par leur propre présence. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si un autre joueur faisait ça, ça porterait moins quand même qu'à l'époque où on avait un personnage quand même.
Oui, tout à fait. Disons qu'en fait, le sida, on connaissait depuis 86-87, donc ça ne faisait que 4 ou 5 ans. Bon, là, c'était une très grande star qui était touchée, qui a dû arrêter sa carrière glorieuse à cause de sa séropositivité. Mmh. Et donc, ça a été très utile dans la lutte pour comprendre cette maladie et comment le combattre. Mais si aujourd'hui un Kobe Bryant annonce sa séropositivité, je pense que ça pourrait avoir un impact pour faire comprendre aux gens que le problème reste intact et que nous n'avons pas vraiment vaincu le sida non plus.
Bien sûr. Alors on a l'impression que le point de rupture entre ces deux périodes dont on parlait d'engagement, en tout cas politique et social, et la période actuelle, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que depuis l'affaire O.J. Simpson au milieu des années 90, on a l'impression que certains ont lâché un petit peu, ont lâché prise et bon.
C'est-à-dire des fans ou...
Non, en général, au niveau conscience politique de certains, d'une classe en tout cas, bon là on parle de sport, de la prise de conscience du pouvoir politique de certains joueurs noirs en tout cas, qu'après l'affaire O.J. Simpson, on a eu l'impression que ça a lâché prise un petit peu, il y a eu moins d'engagement.
Oui, je ne sais pas si c'est dû à cette affaire qui a certainement marqué le pays et qui était un moment très négatif pour la cause des sportifs noirs aux États-Unis, c'est clair. Mm-hmm. Parce que pratiquement 90% de la population est convaincue qu'il a bien tué sa femme et son amant. Donc, bon, en plus, maintenant, on voit que O.J. Simpson va probablement aller en prison pour le reste de sa vie pour d'autres histoires à Las Vegas. C'est un personnage que j'ai rencontré, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques en 96, et ça me faisait froid dans le dos de discuter de tout ça en tête-à-tête avec lui. Ça reste un souvenir, je ne sais pas si c'est un grand souvenir, mais c'était quelque chose qui m'a marqué. Alors, par la suite, je ne sais pas si c'est O.J. Simpson, je pense que c'est plus une histoire de fric, tout simplement. Et il y avait toujours trop de fric, les salaires sont devenus déments. Après, les joueurs, comme les grands acteurs de cinéma, sont entourés d'avocats, de gardes de corps, de coiffeurs.
Bien sûr.
Il suffit de voir Tony Parker maintenant et sa femme, même si je l'apprécie beaucoup. Quand on
qui, Tony
voit...
ou sa femme?
Pardon?
Qui, Tony ou sa femme?
Bah, j'apprécie plutôt Tony le basketteur, sa femme, j'ai pas de jugement à porter. Je la connais pas assez bien. Mais disons que c'est vrai que, bon, est-ce que c'est pas aussi un peu les années Bush qui veulent ça? C'est-à-dire les années des banquiers qui font n'importe quoi et qui nous foutent dans la merde pour ce qui arrive dans la crise actuelle à la bourse. Le subprime, tout ça, c'était un peu des profits déraisonnables à tout prix, les hedge funds, bon là je parle de beaucoup de choses en même temps, mais à la limite c'est un peu symbolique de ce que nous avons vécu aussi dans la NBA où beaucoup des fans ont été déçus de ce côté trop friqué où les joueurs semblaient tous concernés par leur contrat que par la victoire de leur équipe.
Mais il y a quand même encore une image véhiculée par la télévision, par les médias, où on a d'un côté l'image du peuple noir qui réussit par le rap et le sport et qui se montre en permanence, et d'un autre côté les pauvres de Katrina qui sont sur le bord de la route et qui appellent à l'aide.
Oui, c'est ça. Et c'est tout le problème. C'est que, bon, pour quelques milliardaires dans le rap et dans le sport, combien de laisser pour compte. Mais bon, je sais que dans la société américaine, dans d'autres domaines, les Noirs ont quand même beaucoup plus d'opportunités que par le passé. Et puis, il n'y a pas que les Noirs, il y a les Mexicains, tous ceux qui arrivent de Cuba, de Haïti, tous ces gens d'origine étrangère qui veulent eux aussi vivre le rêve américain et qui sont souvent un peu exclus. Bon, le tout maintenant, c'est de trouver des règles du jeu, que ce soit dans la grande finance ou dans la politique, pour permettre à chacun d'avoir sa chance dans l'économie, que ce soit américaine ou mondiale. Hein. Mais
bien
bon, c'est ça, c'est un problème très complexe.
Bon, alors maintenant on va parler un peu musique, parce que Hang Time ça concerne aussi surtout la musique. Le basket, enfin en tout cas nous j'ai l'impression qu'on a, et puis c'est pas qu'une impression, c'est quand même un des rares sports qui est tout le temps mis en musique sur tous les clips qu'on peut voir, I Love This Game, etc. Donc ça, on sent que le basket et la musique, ça a en commun cette recherche permanente du rythme, de la créativité, etc. Donc on voit à chaque fois sur tous ces clips des morceaux d'Earth, Wind & Fire, des vieux morceaux de Dean Martin, etc. Donc finalement, entre rythme, créativité et groove, la meilleure bande-son pour un match de basket, c'est vraiment du jazz alors.
Oui, de toute manière, la musique, surtout noire, a toujours été très associée au basket, surtout professionnel. Donc il y avait le funky, le soul, le jazz avant cela. Il faut savoir que Wilt Chamberlain, qui était un des plus grands joueurs de tous les temps, était propriétaire d'un club de jazz très connu à Harlem. Et il jouait à Philadelphie, mais il retournait souvent à Harlem pour gérer son nightclub, si vous voulez. Et donc il y a toujours des liens très forts entre la musique et le basket. Et puis tout récemment, c'est un peu plus dans le rap et le hip-hop, mais pas exclusivement.
Oui. Alors moi j'ai eu la chance, bon, c'est faire partie des élus qui ont eu la chance de voir jouer les Bulls en 95 et 96 au United Center. J'ai pu y aller et avoir des places, c'était un vrai rêve éveillé. Et ce qui m'avait frappé, c'était à chaque mi-temps ou à chaque temps mort dans les matchs, c'était, bon, outre le spectacle qu'on connaît, c'était la musique souvent soul, il y avait la participation de ces brass bands qui étaient toujours là, toutes ces fanfares, il y avait les Bulls Brothers, ça je vous apprends pas, vous les avez vus encore plus que moi. Ça c'est une Amérique nostalgique qui véhicule cette image des années 50-60 et toutes ces valeurs à travers le sport encore.
En fait, ce que tu décris par rapport aux animations à Chicago sont très spécifiques à Chicago, parce que les Blues Brothers, c'est Chicago. Et puis c'est une ville très riche au niveau des clubs de soul et de jazz. En fait, chaque équipe ou chaque ville a une identité. À la Nouvelle-Orléans, ça serait la musique cajun de la Louisiane qui prime. Mais je trouve ça très, très bien. Et moi, qui ai été animateur dans beaucoup de salles en France, et j'anime encore l'All-Star Game français autour de Noël à Bercy devant 15 000 personnes.
On pourra venir.
Je suis toujours à fond derrière le DJ pour la bonne sélection musicale, parce que je trouve que c'est un vrai plus pour le public. Bon, on vient voir un match de basket, c'est très bien. Et si pendant les temps morts, il y a des jolies danseuses avec des musiques qui plaisent un peu à tous les publics, je trouve que c'est un vrai bonus pour rendre la soirée ou l'après-midi positif pour toute la famille.
Bon. Et la musique, c'est vous qui la gérez dans vos sujets, qui la choisissez dans les sujets de vos émissions ?
Par le passé, oui. Disons que bon, depuis quelques années, je suis surtout concentré sur les commentaires. Donc quand on fait Eddie Halftime à la mi-temps des matchs en direct dans la nuit de vendredi à samedi, rediffusé samedi, c'est Xavier Vaution qui est plus jeune, qui a plus un feeling hip-hop, mais bon, il a quand même 35 ans, quoi. Donc c'est lui qui choisit la musique des sujets. Moi, j'ai fait un documentaire quand Jordan a pris sa retraite en 93.
Avec la musique de Chuck Fields.
C'était peut-être un truc que vous avez vu.
Bien sûr.
Parce que, bon, c'était une heure avec tous les meilleurs moments de sa carrière. Là, j'ai choisi toutes les musiques. C'était des musiques d'une autre époque. Mais je pense que ça collait très, très bien au sujet.
Oui, en effet. Et puis finalement, bah, bien y réfléchir, vous avez amené à votre niveau, je vais dire, mais quand même grandement contribué à la venue de la culture US, NBA, un peu aussi cette folie des sneakers addicts avec tous ces collectionneurs de Jordan, etc. Parce que vous étiez à la base, je crois, à l'origine de la venue de Jordan quand il était venu en 85, je crois, là, Anthony Garnier, vous étiez dans le coup, là.
Oui, bah, j'ai eu la chance d'être un peu dans tous les coups, voilà. L'arrivée de Canal Plus en 85. Bon, j'avais ouvert un magasin de sport en 86 à Paris qui vendait des produits du sport américain. Je crois que c'était le premier magasin de ce type en Europe. Bon, après, j'ai laissé tomber parce qu'on peut pas tout faire non plus. Bon, par la suite, on avait eu Jordan en 91 où Nike voulait faire une petite démonstration dans une petite salle à Paris.
C'était l'émeute.
De 1500 personnes, et il y a 10 000 personnes qui se sont pointées. Et j'ai dû monter sur un car pour annoncer au micro à 9 000 personnes qu'il n'y avait pas de place et qu'ils allaient rentrer chez eux. Donc il y a eu des choses assez extraordinaires, anecdotiques, mais parfois même folkloriques. À travers bon, les différentes prestations. Après, il y avait Jordan au tournoi McDo en 97, qui était un événement énorme. On avait fait une heure d'interview avec Guillaume Durand à Empire,
oui,
avec
sûr.
Jordan. Donc c'est vrai qu'en parlant de ça au téléphone, ça me permet de revivre plein de souvenirs grandioses.
Et vous, êtes-vous qui avez eu la chance de voir évoluer, et même d'évoluer aux côtés d'un des plus grands sportifs de tous les temps, ça apporte quoi comme expérience ?
Bah, disons qu'on a eu beaucoup de chance que l'arrivée de Canal Plus et l'arrivée de Jordan dans la NBA coïncidaient avec une sorte de montée en puissance une progression dans la popularité du basket NBA aux États-Unis, mais aussi en France et partout dans le monde.
Vous avez une vraie responsabilité dans cette arrivée de ce mouvement quand
oui,
même chez
oui, vous. Disons que j'ai été au bon endroit au bon moment. Quand j'ai joué à Paris en 84, et j'ai proposé mes services comme commentateur à Charles Bietri. Et à l'époque, tout était à faire. Il n'y avait rien. Les Français ne savaient même pas ce que c'était, le basket américain et la NBA, le foot américain.
Bien sûr.
Donc, bon, on était néophytes, on a appris sur le tas, mais on avait la chance d'être des pionniers dans quelque chose qui est devenu un énorme marché par la suite.
Et évidemment, mais alors du coup, vous avez tout fait et vous avez bien apporté beaucoup de choses. Donc quand mon compère Seth Swift dit fort joliment aujourd'hui, on est un peu tous fils de George Eddy, ça fait une chouette famille tout ça, non?
Oui, et il y avait même une époque où j'avais peur que Jack Toubon m'envoie en prison parce que j'avais importé trop d'expressions américaines à la jeunesse française, comme hang time, coast to coast, slam dunk.
Et Jordanesque, tout ce qui était, ces trucs-là, c'est rentré dans la...
J'ai pas tout inventé parce que souvent j'ai piqué un peu les expressions des grands commentateurs américains comme Chick Hearn à Los Angeles ou John Madden pour le foot américain. Et en plus, j'ai jamais caché que ces mecs-là, c'était les dieux du commentaire aux États-Unis. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas importer en France leur façon de faire.
Et c'est super. En tout cas, en plus, vous nous faites le petit cadeau de nous avoir envoyé une playlist de certains de vos morceaux préférés. Alors, on a trois morceaux. On a un morceau de James Taylor qui est Mexico. On a un morceau de Sly Family Stone, Everybody's a Star. Et puis, vous m'aviez donné un morceau de Grateful Dead, Unbroken Chain. Je ne l'ai pas trouvé, celui-là. Alors, je suis allé chercher un autre morceau de Grateful Dead avec un autre grand monsieur de la chanson, grande légende de la chanson et du mouvement contestataire à l'époque, c'est Bob Dylan. Oui. Bob Dylan et Grateful Dead qui ont pris un morceau qui s'appelle Slow Train. Voilà,
très,
donc
très bien.
Voilà, donc on va s'écouter ça. Georges, j'ai même pas de mots pour vous remercier de nous avoir fait ce cadeau ici dans les studios de Radio Grenouille. On est plein de petits garçons avec les yeux qui pétillent à vous avoir écouté sur ce moment. Et puis Obama, on espère, il sera là, en tout cas, devant la Maison Blanche, au début fin janvier, pour la main sur la Bible, pour prêter serment. On peut vous demander un petit service?
Oui.
Vous venez nous en reparler une fois que c'est fait?
Oui, bien sûr.
Ah, super.
Maintenant, vous avez tous mes numéros, donc.
On se fait ça.
Appelle-moi quand tu veux.
Ah, on se refait ça. On vous accueille dans Hangtime après les élections pour faire la fête ensemble. On espère, on croise les doigts. Qu'on se tape pas encore 4 ans un type qui vend des pommes de terre et qui fait des frites et une dame
qui sait même pas combien de maisons il possède.
Qui sait même pas combien de maisons, qui a 8 voitures et une dame qui va chasser l'élan avec un M16 sur sa banquise. On préfère pas aller, on croise les doigts. Georges, mille merci d'avoir passé ce moment avec nous.
Ok, merci de m'avoir accueilli et sachez que je continue quand même de commenter les matchs sur Canal Plus.
On vous retrouve dans 21 jours, je crois. Dans moins d'un mois, la reprise de la NBA.
Oui, en fait, même jeudi, je commente à Bercy un match amical entre New Jersey et Miami.
Eh bien, on y sera. On y sera comme d'hab. Nous, on est fidèles au poste. Hein. Nous, on n'a pas bougé depuis 1985, vous êtes arrivé. On n'a pas bougé. On est toujours là. On a le cheveu qui a blanchi un peu, mais on est toujours là.
Moi aussi.
Georges, quittez pas un petit instant. Je vous reprends en dehors de l'antenne. Et puis, nous, on met votre playlist tout de suite. On commence avec le Mexico de James Taylor. C'était Georges Eddy avec nous. Merci, Georges.
Bye-bye. Way down here, you need a reason to move. Feel a fool, running your stateside. Lose your load, leave your mind behind, baby Jane. Oh, Mexico, you sound so simple, I just got to go. The sun's so hot, I forgot to go home. Guess I'll have to go now. Americana got the sleepy eye, but his body's still shaking like a live wire. Everything all right.
The folks back home don't want to talk on the phone. She gets a long letter, sends back a postcard, times are hard. Oh, down in Mexico, I've never really been, so I don't really know.
The dust away. Every saddle it up, make way. West Coast gal in a Eastern Bay. Yo. Saddle it up, I make way. West Coast gal in a Eastern Bay. Booze make she stagger in a drunken way. Marijuana in her blood, she blaze all day. She seem crazy, right? So I can free you one claim. Telling her that I to remain in a grave. I am make up a Charlie, where you take she for? I am crazy enough to come call your bluff. Me not fear your touch, nothing scare me such that I might lose my faith. Mistake that I'm a dangerous state. Laid back man, I'm with an abstract date. So make you run next phase, make you slow down fast. Make I see your face. What you want now, daddy? What you want to stay? Want a spread leg crap, I'm making lick and taste. Better reach for another if you want fit praise. If you know what taste, that she a bad woman. She a bad woman. She be run the rhythm, she be mash up the bass. Clear the whole scene when she stepping out of place. Shake up the whole crowd like them in a earthquake. If you push on her, make a big mistake. Stop mind over matter in a mad girl head. One move and rude boys all them dead. You can milk like butter when she wind her waist. Make you watch your back, cause she's a bad woman.
She's so sexy.
She's a bad woman. She won't lie,
baby. Ooh, she's so on the ground, but you can't wait.
Voilà une belle session de Hang Time qui s'achève, des étoiles plein les yeux et du George Eddy plein la tête. On a passé vraiment un excellent moment. On a fait quoi, une demi-heure presque d'interview. C'était vraiment sympa. On a parlé de plein de choses et puis on se gênera pas de le recontacter, le grand George, pour qu'il revienne avec nous. Rapidement, la playlist de ce soir, on a écouté Life is Just a Moment, Part 1, Roy Ayers. On a entendu un morceau du Steady Digging Workshop, c'était Doing It Well avec le featuring d'Othello. On a entendu un morceau Document the Monkeys de Refractory, groupe français qui est notre coup de cœur du moment, qu'on recevra dans 15 jours dans Hang Time en direct de Istres. Ils seront avec nous par téléphone. On a écouté la playlist de George Eddy, donc avec James Taylor, avec Sign the Family Stone et avec Bob Dylan et Grateful Dead. On est reparti et on a entendu également Sly and Robbie et Amp Fiddler, I Believe in You, dans le nouveau projet qui est sorti sur Straight Records. Puis pour terminer, ce glorieux morceau de Pleasure, c'est Joyous. Et puis la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. La Grenouille sera en direct du Festival Jazz sur la Ville, donc pas d'émission pour nous mardi prochain. On se retrouvera nous dans 15 jours sur Hangtime. Je vous rappelle l'adresse internet hangtime@grenouille888.org. Envoyez-moi plein de mails pour me dire ce que vous avez pensé de cette émission, ce que vous souhaiteriez entendre dans Hangtime, pourquoi pas. Et puis bientôt on met en place les Hangtime MVPs pour connaître les meilleurs morceaux, albums et artistes de l'année. Merci à Seb d'avoir mis en place cette interview. Moi, Mars Blackmon, vous pouvez me retrouver sur mon MySpace, www.myspace.com/marsb. Et puis avant que je m'étouffe, force de parler vite, vous retrouvez l'émission demain, le podcast de cette émission à télécharger sur le www.grenouille888.org. C'était Mars Blackmon, Pleasure Joyous, qu'on va laisser terminer. Et puis un big up aux jeunes de la Busserine qui sont venus nous rendre visite ce soir dans les studios de la Grenouille. On se retrouve dans 15 jours, Hang Time. Et c'était quand même George Eddy avec nous.